à toutes et à tous, Marie Lebert, chroniqueuse, heureuse, enthousiaste, ravie de faire partie de ce patchwork et avocate à Toulouse. Dans cette chronique, enfin dans les chroniques de Maître Marie, on parle de droit sous forme d'actu ou sous forme pratique. Et cette semaine, on va commencer par une sorte de petit SAV ou de petite suite de la chronique de la semaine dernière, dans laquelle on avait parlé d'égalité salariale et d'égalité au travail. Eh bien, un conseil de prud'homme de la région nantaise, ou le conseil de prud'homme de Nantes plus exactement, eh bien, a donné raison, avec une décision toute récente cette semaine, à une femme salariée d'une compagnie d'assurance, qu'on ne citera pas, qui gagnait tous les mois 416 euros de moins que ses collègues masculins. Ça, qu'elle a quand même passé 40 ans chez cet assureur. Eh bien, elle a été dédommagée par le conseil des prud'hommes à hauteur de 161 000 euros. Avec 5 000 euros de préjudice moral, 5 000 euros pour violation d'un accord sur l'égalité professionnelle et salariale, justement, et le reste, eh bien, en dédommagement par rapport à la différence de salaire. Voilà, donc en matière d'égalité salariale, la jurisprudence est en marche. La chronique du jour s'intitule « Bref de cour ». Désolée pour les amateurs, nous ne parlerons pas de tennis aujourd'hui, mais bien d'une sélection de jurisprudence, puisqu'on a appris pas mal de choses intéressantes cette année et récemment avec la Cour de cassation en matière de droit social et droit du travail. Et j'ai eu envie aujourd'hui de vous faire un petit panel et un petit balayage de ces jurisprudences. On va commencer avec le thème de la rupture conventionnelle, mode de rupture du contrat de travail donc qui date de 2008 et qui connaît un certain succès, il faut bien l'avouer, et qui représente aujourd'hui pour certains, tant salariés qu'employeurs, une porte de sortie. Eh bien, peu à peu, la Cour de cassation nous précise son régime. Et notamment, on a appris cette année eh bien qu'on peut signer une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte, y compris si ça fait suite à un accident du travail. C'est une décision de mai 2019 et la Cour de cassation nous a dit que c'était tout à fait possible pour peu qu'il n'y ait ni fraude ni vice du consentement, puisque il faut le rappeler, la rupture conventionnelle qui porte bien son nom, c'est un mode conventionnel contractuel de rupture du contrat. Et ce qui compte vraiment, c'est pas tant le pourquoi du comment, ni les indemnités qu'on va toucher, même s'il y a un contrôle qui est fait par la direction départementale du travail, mais bien qu'on soit d'accord sur ce qu'on signe et comment. Toujours sur le thème de la rupture conventionnelle, la Cour de cassation nous met en place un régime qui est un petit peu équivalent à celui du licenciement, notamment quant à l'entretien préalable. Le Code du travail prévoit que pendant l'entretien, pour négocier cette rupture conventionnelle, le salarié peut être assisté. Il prévoyait également que l'employeur pouvait se faire assister, mais la Cour de cassation est venue préciser le régime de cette assistance, on va dire. Notamment, si le salarié est seul, lui, pendant l'entretien préalable et qu'il a choisi de ne pas se faire assister, eh bien, ce qui compte, c'est que si l'employeur, lui, a quelqu'un à ses côtés, alors DRH ou alors représentant de son organisation syndicale, par exemple, eh bien, il faut que cette assistance n'engendre pas de contraintes ou de pression sur le salarié au moment de la signature. Et à ce moment-là, ça ne viendra pas à pacter la rupture conventionnelle. Par contre, à l'inverse, bah, si on met la pression au salarié, bien évidemment, eh bien, la rupture est affectée de nullité. Alors, cet entretien préalable, justement, alors entretien de négociation pour la rupture conventionnelle, entretien préalable pour un licenciement, son but, on fait un petit rappel rapide, c'est de permettre au salarié de connaître les griefs qu'on lui reproche, c'est de permettre à l'employeur d'avoir des explications, et puis c'est surtout de lui donner le temps de la réflexion. Et la Cour de cassation est venue nous le rappeler dans un arrêt récent, d'octobre 2019. Alors, le cas d'espèce était le suivant, un employeur envisageait de licencier un salarié pour faute grave, le convoque à un entretien, jusque-là tout va bien, et puis bah, ayant eu vent de l'affaire, les salariés de l'entreprise sollicitent une réunion d'explication, et pendant cette réunion, avant même la tenue de l'entretien préalable, eh bien, le directeur a indiqué aux participants à la réunion que sa démarche était engagée, qu'il ne reviendrait pas dessus, qu'il avait tous les motifs de prendre cette décision. Et donc, bah, pour le salarié contesté, ça lui a donné l'idée et un motif, surtout pour contester son licenciement devant un conseil des prud'hommes en disant qu'à partir du moment où son employeur était capable, on va dire, de balancer l'info comme ça, comme prise et irrévocable à ses collègues, eh bien, c'est que ça équivalait à un licenciement verbal sans aucun respect de la procédure et surtout sans aucune cause réelle et sérieuse de licenciement. Et la Cour de cassation, effectivement, lui a donné raison en rappelant que cet entretien préalable, eh bien, il sert à discuter des griefs et des reproches et qu'on ne doit pas prendre sa décision avant. On avance dans notre panel de jurisprudence. Et alors là, j'ai trouvé un arrêt récent aussi qui date de septembre et qui me ramène un petit peu à mes origines, puisque certains l'auront peut-être relevé avec mon nom, mais je suis d'origine bretonne. Et en breton, on dit péché caché à moitié pardonné, alors que vous savez qu'en français, on dit faute avouée à moitié pardonnée. Eh bien, la Cour de cassation reste française et elle a sans doute bien raison, je ne sais pas. Mais en tout cas... Elle nous a rappelé, donc, dans un arrêt de septembre, eh bien, qu'une faute cachée par un salarié est nécessairement qualifiée de faute grave. Alors, en l'occurrence, on avait, dans cette histoire, un employeur qui a mis en place le paiement des salaires par virement. Et puis, il se trouve que pendant 8 mois, eh bien, il y a une salariée qui, de par ses virements, a perçu le double de ce qu'aurait dû être son salaire. Et bien évidemment, eh bien, elle a eu l'idée de n'en parler à personne. Sauf que, eh ben, l'employeur s'en est rendu compte et l'a licencié pour faute grave en indiquant que devait y avoir entre eux, notamment de par la gestion de l'argent des ventes dont elle était chargée, eh ben, il devait y avoir une relation de confiance et que dans ce cas-là, eh bien, la confiance n'y était plus et que, vu le silence dont elle avait fait preuve, eh bien, ça justifiait une faute grave et ça justifiait son licenciement. Alors la salariée jure ses grands dieux qu'elle ne s'est rendu compte de rien. Le problème, c'est qu'elle a tout dépensé et que bah, quand l'employeur lui a demandé le remboursement, eh bien, elle a dit « moi je voudrais bien, mais j'ai plus les sous ». Eh bien, pour la Cour de cassation, l'excuse ne passe pas et effectivement, dissimuler à l'employeur dans ces conditions, volontairement et de manière persistante, l'existence d'un trop-perçu de salaire est bien constitutif d'une faute grave qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Poursuivant sur sa lancée des fautes graves et des sanctions, au mois d'octobre, le 9 octobre 2019, la Cour de cassation nous a rappelé que punir une fois, c'est bien, mais punir deux fois, c'est trop. On est toujours sur des petits détournements de fonds, puisque dans cet arrêt-là, un employeur surprenait un salarié qui détournait à son profit un chèque remis par un client en règlement d'une commande. Alors d'abord, l'employeur a retenu les sommes détournées sur le salaire, et puis ensuite, il a considéré qu'effectivement, c'était une faute grave qui lui donnait une raison de licencier. Alors le salarié s'est pas démonté, il reconnaissait sa faute en disant « oui, j'ai détourné les sous, mais je conteste parce que vous m'avez sanctionné deux fois, une première fois avec une retenue sur salaire, et une seconde fois en me licenciant ». Donc, bah, le licenciement, il arrive trop tard, c'est une deuxième sanction et il n'est pas justifié. L'employeur, en tentant d'être fair-play, a dit « ok, très bien, c'est vrai, mais la retenue sur salaire que j'ai pratiquée est une sanction pécuniaire illicite, je n'avais pas à le faire, donc finalement mon licenciement après, il est tout à fait valable et c'est la seule sanction et unique qui vaille ». Ben, la Cour de cassation a pris l'employeur à son propre jeu en lui expliquant que la retenue sur salaire, même illicite, constituait néanmoins une sanction, ce qui l'empêchait donc, en suivant, de licencier le salarié, puisqu'effectivement, en droit du travail, et que le principe, qui est un principe juridique de base d'ailleurs, eh bien, fait qu'on ne peut pas sanctionner deux fois une même personne pour les mêmes faits. Cette année, on a aussi eu confirmation et puis précision sur le régime des correspondances, alors qui ont une importance toute particulière aujourd'hui parce que tout le monde a sa boîte mail, tout le monde a un ordi au bureau, on a les mails perso, on a les mails pro, on a le réseau de l'entreprise qui parfois est surveillé, on a l'intranet, enfin bon. Ça pose parfois toute une question de soucis pratiques sur le secret des correspondances. On fait 30 secondes de rappel juridique. L'arrêt fondateur sur la vie privée au travail et le respect des correspondances, c'est un arrêt qui s'appelle l'arrêt Nikon du 2 octobre 2001 et qui rappelait que bien, quand bien même il est sur son lieu de travail et au temps du travail, eh bien, le salarié a le droit au respect de l'intimité de sa vie privée, ce qui implique notamment le secret des correspondances. Alors là, on a un petit malin qui a été un petit peu maladroit puisque un employeur a trouvé sur l'imprimante de l'entreprise la confirmation d'une réservation de voyage faite par un salarié et reçue via son adresse mail professionnelle. C'est le début de la bêtise, outre le fait de l'avoir laissé sur l'imprimante, bien sûr. Le souci, c'est que ce voyage a lieu à des dates où le salarié est censé être en arrêt de travail conformément à l'arrêt maladie qu'il a fourni. Voilà. Alors pour l'employeur, évidemment, bah c'est grave, c'est sérieux et c'est un motif de licencier. Alors le salarié s'étouffe, il conteste et il dit que pas du tout parce que le document sur lequel s'appuie son employeur pour le licencier est un document personnel qui relève de sa vie privée et donc du secret des correspondances. Et donc sur cette base-là, bah, ça pourrait pas servir de fondement pour le licencier. Oui, mais voilà, l'employeur lui dit c'est bien gentil tout ça, mais ce document, il vous a été adressé non pas sur une adresse mail privée, mais sur une adresse mail professionnelle. Et donc, en gros, je fais ce que je veux et ça ne relève pas de votre vie privée. Et la Cour de cassation, effectivement, alors peut-être aussi un petit peu irritée par le fait que c'était sur une période où on est en arrêt maladie normalement, je ne sais pas, mais la Cour de cassation a confirmé ça et nous a dit qu'effectivement, à partir du moment où c'était sur une boîte pro, eh ben, l'employeur pouvait tout à fait aller vérifier. Et elle nous l'a confirmé une deuxième fois cette année, un petit peu plus tôt, en juin, pareil, sur des échanges de mails professionnels avec une entreprise concurrente qui avait conduit finalement à la divulgation de documents internes. Eh bien, la Cour de cassation avait validé dans ces cas-là le licenciement pour faute grave. Alors, quand bien même le salarié disait « Oui, mais on est venu fouiller sur mon ordi pro, sur ma boîte pro, c'est pas normal, j'aurais dû être mis au courant. » Ben oui, mais sauf qu'à partir du moment où il n'y a pas la mention personnelle sur des documents, eh bien, l'employeur peut y accéder un petit peu comme bon lui semble et venir les consulter. Et ça peut lui permettre de justifier une procédure de licenciement. Voilà. Et puis, on va terminer ce panel de jurisprudence sur une décision un petit peu cocasse. On est sur un arrêt de cour d'appel, donc le suspense est ouvert parce qu'il y aura peut-être derrière une décision de la Cour de cassation, pardon. On est sur un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui nous fait un petit mix entre droit du travail, accident du travail et batifolage. Alors, l'histoire, quelle est-elle? Eh bien, on a un salarié en déplacement professionnel qui est victime d'un malaise cardiaque qui va entraîner son décès. Donc, ça commence de manière un petit peu triste. L'employeur, très sérieux, déclare donc un accident du travail. Mais lorsque la CPM va reconnaître le caractère professionnel de l'accident, eh bien, l'employeur finalement conteste la décision parce qu'il a appris entre-temps que le malaise et le décès du salarié n'ont rien à voir avec le travail, bien au contraire. Ils sont intervenus après que le salarié ait eu une relation sexuelle adultérine avec une parfaite inconnue et dans un autre lieu que la chambre d'hôtel réservée par l'employeur. Le salarié, donc, d'après l'employeur, a interrompu sa mission pour un motif exclusivement personnel et donc il n'y aurait pas accident du travail. Alors, la Cour d'appel de Paris, pour l'instant, a rappelé que le salarié en mission est protégé contre les accidents du travail pendant tout le temps de sa mission, peu importe que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, comme peut l'être un rapport sexuel. Je vous laisse apprécier le lien de qualification entre rapport sexuel et acte de la vie courante, à moins que l'employeur ne prouve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Donc pour la Cour d'appel de Paris, si un rapport sexuel est un acte de la vie courante, ce n'est pas nécessairement une interruption de service pour un motif personnel. Je vous laisse apprécier. En tout cas, pour l'instant, on était bien, selon la Cour, dans le cadre d'un accident du travail. Je ne sais pas si l'affaire a été portée devant la Cour de cassation. Le suspense est entier, mais en tout cas, si dans 1 ou 2 ans, parce qu'il faudra bien ce délai-là quand même, un arrêt de la Cour de cassation est sorti, bah bien entendu, je me ferai un plaisir de vous donner les suites et fins de ce batifolage dont les conséquences restent pleines de suspense. Voilà. Donc, on termine cette chronique sur une note de suspense. La prochaine fois, eh bien, on verra si on reste sur des brèves de cours sur un autre thème, à moins que l'actu, comme la semaine dernière, ne nous fournisse un dossier brûlant à explorer du point de vue juridique. Vous retrouvez ces chroniques et le patchwork, bien entendu, en podcast sur le site d'Esprit Occitanie. Vous pouvez les réécouter. Et surtout, eh bien, restez avec nous sur Esprit Occitanie pour la suite des chroniques et des émissions.
Bonjour et bienvenue dans la Casa des Ebel. Aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle rubrique dans laquelle je vais vous parler des différents acteurs qui interviennent sur les marchés financiers. Et pour commencer, je me propose de vous parler d'un gérant de hedge fund qui a défrayé la chronique au début des années 2000. Avant de vous exposer le coup d'éclat de ce gérant, je prends quelques instants pour vous expliquer succinctement ce qu'est un hedge fund. Un hedge fund, ou fonds alternatifs, en français, fonds d'arbitrage. Il existe un certain nombre de termes, mais je reviendrai dans une chronique spécifique sur les caractéristiques de ce type de placement, est un fonds d'investissement dans lequel le niveau de risque est souvent plus important que dans le cadre d'un fonds traditionnel. Que j'appelle fonds traditionnels, ce sont des fonds investis sur des actions, des obligations, des placements monétaires que vous pouvez souscrire auprès de votre banquier, de votre assureur, dans le cadre d'un plan d'épargne, dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Les hedge funds, en contrepartie, bien entendu, il ne faut pas l'oublier, de ce niveau de risque qui est plus important, il est possible que certains fonds donnent des rentabilités importantes, voire très importantes. Mais n'oubliez pas, en finance, le premier principe que j'ai appris en deuxième année de fac, la première phrase que m'a dit mon prof de finance est toute simple. « There is no free lunch ». Donc en français, il n'y a pas de repas gratuit. Donc des rentabilités de 10% sans risque, ça n'existe pas. Ou ça s'appelle une escroquerie. Le plus connu étant Bernard Madoff, ancien patron du Nasdaq, donc quelqu'un qui est important, qui est un type extraordinaire, bon, qui est maintenant en prison parce qu'il a juste escroqué tous ses clients. Et pas que des gens, monsieur, madame, tout le monde. Hein. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont subi les affres de ce monsieur. C'est pareil, je pense que je ferai une petite chronique sur l'histoire qui est quand même très, très, très rigolote. Donc les hedge funds sont souvent associés à un gérant star. Donc, dans le cas de Madoff, c'était lui, qui a réussi à fédérer autour de lui des investisseurs souvent qualifiés. Quand je dis investisseurs qualifiés, ce sont des investisseurs qui connaissent la finance, souvent des investisseurs institutionnels, donc des caisses de retraite, des gérants de fonds qui placent leur argent chez d'autres gérants qui ont un savoir-faire sur une zone géographique, sur un type de produit que le gérant ne maîtrise pas et préfère déléguer la gestion plutôt que de le faire lui-même sans avoir l'équipe et le savoir pour pouvoir générer le maximum de performance. Je reviens sur le fait que les investisseurs souvent qualifiés souhaitent bénéficier du savoir et de l'expérience du gérant star. Et là, c'est le cas avec Anthony Ward. Anthony Ward est la personne dont je vais vous parler. Armajaro a été créé en 1998 par Anthony Ward et Richard Gower à Londres. Armajaro est une société d'investissement qui était spécialisée sur les matières premières, notamment le cacao et le café. Les journaux économiques en 2010 titraient que le financier Anthony Ward tente d'assécher le marché mondial du cacao, le spéculateur fait flamber les prix du cacao. Que s'est-il passé? L'objectif de ce gérant a été d'investir une petite somme, $1 milliard, pour acquérir simplement 240 000 tonnes de fèves de cacao, soit 6% de la production mondiale. Son objectif, raréfier l'offre pour faire monter le prix. Technique assez simple, qui peut également poser un problème. Petite anecdote, une société de gestion qui s'appelait Richelieu Finance, de mémoire, a fait la même chose avec le Club Méditerranée, a voulu acheter le maximum d'actions, s'est retrouvé dans ce que l'on appelle un corner, c'est-à-dire que personne ne voulait racheter des actions qu'il voulait vendre, et donc a malheureusement dû vendre avec une très forte décote. Et la société a disparu ensuite et rachetée par différents intervenants qui ont trouvé que c'était pas très cher d'acheter une société qui venait de faire une grosse bêtise. Alors, on pourrait dire que Anthony Ward est culotté. C'est un peu le cas. Parce que, juste, que représente 240 000 tonnes de fèves de cacao? 5 milliards de tablettes de chocolat. Voilà, donc c'est la plus grosse transaction qui a été faite sur le marché du chocolat depuis, ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de transaction faite à ce niveau-là. Est-ce que le pari était intéressant? Est-ce que c'était jouable? Est-ce que c'était risqué? Est-ce que c'était n'importe quoi? Est-ce que c'était un coup de folie? A priori, les différents intervenants qui ont étudié cette opération trouvaient que c'était jouable, tout simplement parce que du côté de l'offre, les deux premiers producteurs de cacao dans le monde, qui sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, étaient sur le déclin. Problème de météo, problème de production, problème de renouvellement des cacaoyers. Donc, eux avaient un réel besoin de vendre. À peu près, pas à n'importe quel prix, mais n'étaient pas regardants sur le prix. Et côté demande, ce qui a été très... Je pense que c'est ce qui a poussé Anthony Ward à le faire, c'est qu'il y a deux pays qui se sont mis à acheter du cacao. c'est la Chine et l'Inde. Donc on est à peu près 2 milliards de nouveaux consommateurs potentiels, ce qui fait quand même juste une possibilité de vente assez importante. Donc voilà. Autre point, c'est que Anthony Ward n'est pas un inconnu sur le marché du cacao. Il a commencé au début des années 90 à faire du trading chez un très gros négociant américain. Et avant de créer Armajaro, au sein de ce négociant américain, il était interrogé sur plus de 40% des opérations qui s'effectuaient sur le cacao mondial. Donc c'est quelqu'un qui est connu, qui connaît bien le marché, qui doit avoir ses entrées. Voilà, c'est un vrai professionnel, on va dire ça comme ça. Et en 2010, ce n'est pas son premier coup. Son premier coup d'éclat a été 8 ans plus tôt. Lorsque cette fois-ci, bon, c'était un peu plus faible, il n'a acheté que 200 000 tonnes de cacao, donc quand même 20% de moins, mais ça lui a permis de gagner une somme rondelette. Enfin, quand je lui dis de gagner pour son fonds une somme rondelette qui ensuite est partagée aux différents porteurs de parts de son fonds. C'est à cette époque qu'il a gagné le surnom de Chocolate Finger et également lui a valu une légère interdiction temporaire d'exercer toute activité dans une très grande partie du Ghana. Comme je viens de vous le dire, le Ghana étant le deuxième producteur d'Afrique de l'Ouest de cacao et même deuxième producteur mondial de cacao. Donc pendant demi-douzaine d'années, il n'a pas pu travailler dans ce pays. Et vous allez me dire, mais qu'a-t-il fait de ces 240 000 tonnes ? Alors déjà, il a loué quelques bateaux avec des grandes contenances pour mettre ces fèves, dans les cuves de ces bateaux. Et la rumeur veut que, même si personne ne l'a avoué, c'est normal, ça faisait monter le prix, donc c'était très désagréable pour les concurrents, mais la rumeur veut que un grand chocolatier suisse, Barry Calbo, pour se prémunir contre la hausse des cours, parce que c'est simple, il a acheté une très grosse partie de la production, les stocks étant au plus bas, mécaniquement, le prix monte. Mais monte très très fortement, linéairement. Donc quand vous êtes chocolatier et que vous voyez le prix qui monte et que vous vous dites « je peux pas augmenter le prix de mes tablettes indéfiniment », c'est la marge du chocolatier qui est rognée. Donc il paraîtrait, après, voilà, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais que Barry Calbo et d'autres auraient passé un accord avec notre ami Chocolate Finger pour lui acheter une partie, a priori 100 000 tonnes, à peu près la moitié, à un prix défini à l'avance, ce qui permettait de pouvoir mettre la somme qu'il a mis au départ, donc le milliard de dollars, pour pouvoir acquérir ce chocolat. Parce que le chocolat, on peut l'acquérir, il peut tenir quelques semaines, voire peut-être même quelques mois en fonction de ce que l'on peut lire dans les cuves d'un cargo, mais pas des années. Donc si personne veut acheter parce que le prix est trop important, il se retrouve avec, 5 milliards de tablettes de chocolat, ça peut faire mal au ventre. Voilà. Et alors, ça c'est du côté investisseur, très bien, ils ont bien gagné leur vie. Et qu'en est-il des producteurs ivoiriens gagnés, hein? Eh bien, tout simplement, ils subissent les évolutions erratiques des cours sans pouvoir en profiter et sans pouvoir rien faire. Les seuls qui ont profité de ces différents investissements sont les investisseurs qui ont travaillé avec notre ami Anthony Ward. Sachez que depuis, il a vendu en 2013 ses activités et qu'en 2017, il a fermé son activité globale de gestion de fonds et qu'aujourd'hui, il fait de la gestion de patrimoine. Mais ce n'est que mon humble avis. Et vous, qu'en pensez-vous ? C'était La Casa de Ebel, à la réalisation Hugo Pépitone. Vous pourrez bien entendu retrouver cette chronique en podcast sur le site de la radio Esprit Occitanie. N'hésitez pas à commenter cette chronique. Le débat permet d'avancer ensemble sur le chemin de la connaissance. À bientôt pour une nouvelle chronique.
Bonjour chers auditeurs, Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire lecture du second chapitre du roman de Gilbert Noguès intitulé « Superman ne volera plus » aux éditions Kern.
J'en sais rien, viens de moi la main, pour aller où, j'en sais rien, viens.
J'en suis là. J'ai un cadavre sur les bras, mais je l'ai choisi. Nous avons sympathisé et je lui ai offert ma couche. Je vais devoir me trouver un autre carton pour finir ma nuit. Finir ma nuit. Franchement, vous pensez que vous retrouveriez facilement le sommeil après une rencontre aussi brutale et soudaine que celle que je viens de faire ? La nouvelle année, fêtée à grand renfort de nourriture roborative pour bon nombre de gens, est arrivée sans que je ne m'en aperçoive. Enfin, si, quand même. Dorénavant, je ne peux plus dormir sur un banc de la prairie des filtres, comme au cours des nuits chaudes de l'été. Je dois dès lors passer entre les gouttes de pluie, éviter les bourrasques du vent d'autan et lutter contre la froideur des nuits et la rigueur des petits matins. Alors je marche. C'est ce que nous, sans domicile fixe, nous faisons le mieux. Nous marchons. Pour aller où ? Là ou ailleurs, qu'importe. Comme je ressens une petite douleur au creux de mon ventre caverneux, il faut que je trouve très vite un petit quelque chose. Voilà pourquoi je prends la direction d'Arnaud Bernard. Dans ce quartier, flanqué entre l'église Saint-Sernin et le boulevard Las Crosses, que vous connaissez déjà, il y a toujours un Turc, un Libanais ou un Arabe prêt à vous donner un reste de kebab, quelques boules de kébé ou un chouïa de couscous. C'est un quartier qui sait ce qu'est la solidarité. À l'angle de la rue de Trois Piliers, je m'arrête. D'abord parce que je traîne depuis un bon moment ma jambe gauche et je me demande si elle ne va pas me lâcher et me voir obligée de finir ma triste existence comme Christopher Reeves dont je vous ai déjà parlé. Je m'arrête parce que je ne peux plus faire un pas tant il y a du monde sur le trottoir. Des jeunes, des moins jeunes, des glabres, des barbus, des vrais, pas comme ce cher hipster, des tondus, des chevelus et un chien à roulettes. Je vais y revenir. Ce soir, le café chez ta mère fait salle et extérieur comble. Ce n'est pas la première fois que j'y fais station. Du temps où j'avais un travail et quelques euros de trop, j'y étais venue écouter la fine fleur de la bonne chanson française. Il suffisait d'être adhérent. J'y avais croisé entre autres Nicolas Jules, Manu Galure, les Trompetas Sisters, Lise Martin ou Buridan. Je n'y avais pas remis les pieds depuis fort longtemps. Ce soir, une affiche punaisée sur la porte annonce « La Zingara chante Colette Mani ». J'ignore tout de la première, je vois très bien qui était la deuxième. Je l'avais vue pour la première fois un soir où la Maison des Jeunes d'Ampalo organisait une soirée chanson française. Elle m'avait pris pour Maurice Benin, qui se produisait aussi ce soir-là. Le dit Maurice faisait bien 20 cm et 30 kg de plus que moi, nous n'avions en commun qu'une barbe fleurie, plus une toison capillaire abondante et frisottante, mais j'avais apprécié la chaleur de ses bras et le contact mammaire de son avantageuse poitrine. Au premier accord d'accordéon, je reconnais immédiatement la chanson. Je ne suis pas le seul. Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin, Mélocotone, où elle est maman. Nous partons à 60, 80, 200, que sais-je. En tout cas, nous sommes nombreux en arrivant au refrain. J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Avec la Zingara, nous égrenons jusqu'à plus soif les paroles, mêlant nos voix et nos larmes, enlaçant des corps inconnus, embrassant des amis d'un soir. Et puis, la Zingara range son soufflet à chagrin et une voix dans le micro nous annonce que c'est la dernière chanson, que le café va fermer définitivement et cela nous fait de la peine et nous pleurons. Je suis plantée devant la porte lorsqu'elle sort. C'est Colette. En tout cas, elle aussi frise le quintal. Un visage poupin, de petites lunettes noires et rondes, une opulente chevelure rousse. C'est la Zingara. « Putain, qu'est-ce que tu fous là ? » Je la regarde, qui, tel un char d'assaut dans le désert syrien, fonce vers moi. « Putain, qu'est-ce que tu fous là ?» Je me dis qu'elle se trompe, que c'est à quelqu'un d'autre qu'elle s'adresse. Mais non, elle m'engouffre dans ses bras solides. Je sens la chaleur de son corps et surtout de son avantageuse poitrine. « Putain, qu'est-ce que tu pues ?» Elle s'est éloignée doucement, ses deux mains pâteuses reposent encore sur mes épaules. Ses yeux sont trempés, elle me sourit. « Ah putain, mon Jojo, ça me fait un putain de plaisir de te revoir !» Et là, immobile, baignant dans ma puanteur révélée, je comprends la confusion. « Je suis pas genre... Enfin, Jojo, t'es qui alors ?» Les mots fusent de sa bouche, en même temps que quelques postillons atterrissent sur mon visage et que je n'ose essuyer de peur de voir la créature s'en offusquer. Je lui bredouille discrètement que le fameux Jojo n'est autre que mon frère Georges. « Putain, t'es son frère » hurle-t-elle. Et elle m'explose les deux épaules en les malaxant grassement avec ses mains et en me secouant comme un prunier qui refuserait de se séparer de ses prunes. Normal pour un prunier. Je fais mine de ne rien sentir, mais cette nouvelle douleur cumulée à celle de ma guibole folle n'est pas faite pour m'arranger. Je vais de mal en pis. « Vous connaissez mon frère, Madame Zingara ?» lui demandai-je pour mettre fin au secouage. « Tu parles que je le connais. Et puis, appelle-moi Consuelo et arrête ton putain de vouvoiement. » J'en suis à me demander combien de fois elle a utilisé le mot « putain » depuis notre rencontre quand elle s'adresse au chien à roulette. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. « Spartacus, viens voir !» Elle se baisse et soulève le fameux chien. « Bon, là, faut que je vous décrive l'animal en question. Spartacus, je viens d'apprendre son nom, est, d'après ce que je peux connaître de la gent canine, un basset artésien. » Un taillot, comme disait mon père, chasseur émérite. Des oreilles longues qui balaient les mégots abandonnés, des yeux de chien battu, l'est-il, qui implore la caresse, une queue qui s'agite comme un sabre, du noir, du blanc, du fauve, et un patin à roulette. Devant mon air interloqué, mes yeux hagards posés sur le canidé, Consuelo sourit, puis elle repose l'animal qui pousse un coup de gueule si intempestif et sonore que toutes les conversations du café et de la rue se suspendent un instant. Un silence, ensuite, qui se ponctue par une salve d'applaudissements pour le cornion. Spartacus souffre d'arthrose et sa colonne vertébrale ne peut plus supporter le poids de son ventre. En me disant cela, elle malaxe son abdomen, qu'un marathonien averti perdrait son souffle à trop vouloir le contourner. Discrètement, je regarde le limier et son appareillage. « Alors tu vois, précise-t-elle, mon pauvre Spartacus était condamné à croupir dans son panier en osier et à se pisser sur le bide. C'était inacceptable pour moi, et c'est Bernard, un vieux copain anard, qui m'a suggéré l'idée. J'ai récupéré un vieux patin à roulettes que je lui ai fixé sous le ventre. Depuis, Spartacus m'accompagne dans tous mes spectacles et aussi quand je chante au coin des rues. Et c'est lui qui fait passer le chapeau. Je souris, elle sourit aussi, et tous deux, comme de vieux complices, nous posons un regard amusé sur le grigou. Il a vraisemblablement compris qu'on parle de lui et agite ses deux longues oreilles, soulevant un nuage de poussière. Nos sourires se transforment en un violent éclat de rire et Consuelo me prend dans ses bras charnus. « Putain, qu'est-ce que tu schlingues !» Voilà, chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite des aventures de Gustave Cambolive. À bientôt !